Alors d'abord bonjour, les bien-aimés du Seigneur à Grenoble et environ, j'imagine. Hein. Probablement, vous n'êtes pas tous grenoblois, plutôt un peu plus loin, probablement. C'est un privilège pour moi d'être des vôtres pour ce week-end, cette fin de semaine, et pour traiter cette thématique. Alors je vais vous avouer que j'ai plutôt l'habitude de traiter cette thématique devant un parterre d'étudiants et moins devant un parterre ecclésial, mais le plaisir en est d'autant plus grand. Je me réjouis d'avoir aussi cette occasion-là d'aborder cela. Habituellement, je suis plutôt un défenseur des prédications textuelles, suivies, etc. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire pendant ce week-end, donc voilà, je suis un petit peu à côté. Mais je vais plutôt officier comme enseignant, comme je le fais par exemple à l'Institut biblique à Genève. Donc, ce qu'on va essayer de mieux définir ensemble durant ce temps, c'est, alors, les termes ont déjà été employés par Raphaël tout à l'heure, les états. Alors, concrètement, il y a deux états. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est l'état d'humiliation et l'état d'exaltation. Alors, qu'est-ce qu'on entend au juste par là? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? À quoi ça nous sert? Enfin, voilà, j'ai essayé de parcourir un petit peu ce champ de réflexion. Mais avant cela, je vous invite à lire un texte de l'Écriture de l'apôtre Paul, où justement Paul nous en parle de ces deux états, et il nous en parle dans un contexte un peu tendu. Il écrit à une église qui va bien, mais quand même, il y a des tensions. Visiblement, c'est un peu difficile pour tout le monde d'être du même avis, d'avoir une unité de pensée, et Paul a la bonne idée de leur proposer un modèle, un exemple, pour arriver à cette unité. Et donc, je parle de l'église de Philippe, donc la lettre aux Philippiens, bien sûr, en conséquence. Et au chapitre 2, Paul leur montre un exemple, l'exemple de Christ, pour les aider dans ce cheminement vers l'unité de pensée. Alors donc c'est Philippiens 2, chapitre 2, verset 5 à verset 11. Alors je laisse le contexte, je voulais brosser à quelques traits. Je reviens tout de suite au cœur du sujet, de la manière dont Paul argumente. Donc Philippiens 2, chapitre 2, verset 5 à 11. Donc je lis. Je lis dans la version second 21. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jusqu'ici. Alors, il y a des discussions un petit peu savantes pour savoir si c'est de Paul, si Paul a repris quelque chose qui existait, etc. Mais bon, ce n'est pas vraiment notre sujet cet après-midi, donc je n'entre pas dans ce débat. Dans ce que nous avons lu, je relève simplement deux expressions. Au verset 8, il est dit « Il s'est humilié lui-même ». Donc, ce que Paul décrit dans un premier temps, c'est une humiliation. Et puis, un peu plus loin, au verset 9, « Dieu l'a élevé à la plus haute place, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, etc. » Alors, en général, en théologie, on n'emploie pas le terme d'élévation, bien qu'on aurait pu. C'est un vocabulaire que Paul emploie. On parle plutôt d'exaltation. C'est le fait, par exaltation, on entend le fait que Christ soit suprêmement élevé. C'est une des manières, et c'est Paul, l'apôtre Paul, utilise cette manière aux Philippiens de parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. On conjoint les deux aspects. Alors, pour comprendre un petit peu l'originalité de cette manière de parler de Jésus-Christ et de son œuvre, on va dans un premier temps, alors assez rapidement, la comparer à d'autres manières de parler de Christ et de son œuvre. Alors, juste pour qu'on ait un petit peu un cadre, une perspective plus large que juste les deux états. Et après, nous revenons à cette question de l'humiliation et de l'exaltation. Alors, comment encore peut-on parler de Christ? Quelles sont les différentes manières? Alors là, on pourrait avoir un peu un débat entre nous. Comment vous faites quand vous parlez de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas, par exemple? Ou comment vous faites quand vous parlez de Jésus entre chrétiens? Voilà, il y aura plein de choses à dire, probablement, à cette question-là. Mais le point que je voudrais, ou disons, la perspective que je voudrais aborder, c'est pas comment on en parle dans nos échanges courants, mais comment théologiquement on peut en parler. Alors, par exemple, la façon suivante, c'est ce qu'on appelle à la manière de la théologie biblique. En quoi ça consiste? Ça consiste à organiser les choses chronologiquement, dans leur ordre chronologique, et à voir comment ça s'est développé. Alors, c'est pas compliqué, on commence par l'Ancien Testament, et on se pose la question, comment Jésus a commencé à être dévoilé dans l'Ancien Testament? Alors, c'est extraordinaire. J'aurais beaucoup envie de vous parler de ça, mais ce n'est pas mon sujet. De mille et une manières, on voit chronologiquement comment l'image de Jésus-Christ se forme jusqu'à arriver au seuil du Nouveau Testament, où Dieu a créé une attente en Israël et tac, Christ arrive. Et c'est une énigme pour ses contemporains, vraiment une énigme. Et la deuxième partie, c'est par exemple examiner les évangiles, comment Christ est révélé dans les évangiles. Et après, dans les épîtres. Et puis, on peut arranger chronologiquement les épîtres et voir comment l'image de Christ est exploitée par les auteurs du Nouveau Testament et comment ce qui était juste un petit peu dévoilé dans l'Ancien Testament maintenant devient lumineux, resplendissant. Et ça, c'est typiquement une approche de théologie biblique. On commence à la Genèse, on organise tout chronologiquement et on termine par l'Apocalypse, le dernier écrit du Nouveau Testament, et on regarde comment l'image se complète et se développe. C'est passionnant. Alors, on peut prolonger un petit peu plus encore, et on peut se poser la question, mais dans l'histoire de l'Église, comment est-ce qu'on a compris cette personne de Christ? Est-ce qu'à toutes les époques, on a toujours compris Christ et son œuvre de la même manière? Absolument pas. Vous seriez, alors à moins que vous soyez historien et que vous ayez déjà travaillé ce domaine, mais si vous n'êtes pas historien, probablement vous serez surpris, vous pourriez être surpris de voir que la conception qu'on avait de Christ et de son œuvre au 3e siècle n'est pas du tout la même qu'au 16e siècle et n'est absolument pas la même au 20e siècle, au 21e siècle. Il y a vraiment eu des grandes différences. Alors cette approche-là, on appelle ça la théologie historique, parce qu'on se préoccupe aussi de façon chronologique ou à une tranche donnée de l'histoire, comment on a perçu Jésus-Christ. Donc voilà une manière de faire. Alors quand on parle des états, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ça c'est une autre manière de faire. Un autre exemple encore. Alors ça c'était l'approche que je viens de décrire très rapidement et puis un petit peu, c'est un petit peu vite. Donc c'était la théologie historique ou encore la théologie biblique, si on prend juste le temps biblique. On peut aussi avoir une approche de théologie systématique. Alors, c'est différent. C'est encore une fois une autre manière de parler de Jésus et de son œuvre. Quand on fait de la théologie systématique, on ne tient quasiment pas compte de la chronologie. On devrait pourtant, mais souvent on ne le fait pas. Et on cherche tous les versets dans la Bible qui ont trait à un même sujet. Par exemple, la divinité de Christ. Que dit la Bible de la divinité de Christ? C'est une pensée, un thème qu'on essaie de développer, et puis après on prend les versets là où on les trouve, et on crée une théologie de la divinité de Christ. C'est donc une approche thématique et systématique dans l'entier de la Bible. Alors on se pose des questions du style, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est Dieu de la même nature que le Père? Ou est-ce que la nature du Fils, sa nature divine est différente de celle du Père? Je ne sais pas si un jour vous êtes posé cette question. Oui? Non? Ouais? Ok. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste, je vois. Je vois que vous n'êtes pas des aficionados de la théologie systématique. C'est pardonnable. Mais sachez quand même qu'à certaines périodes de l'histoire, ce genre de questions, par exemple, est-ce que vraiment la divinité de Jésus est la même que celle du Père ? C'était chaud, hein ? Alors vraiment chaud. Et poser cette question à un auditoire de chrétiens, comme je viens de le faire, bah, c'était une question dangereuse, parce que vous pouviez finir au bûcher ou ailleurs si vous aviez la mauvaise réponse. Donc voilà. Alors aujourd'hui, tout ça est un petit peu apaisé, donc ça va un petit peu mieux, heureusement. Mais à l'époque d'Arius, par exemple, et du concile de Nicée en 325, c'était vraiment une question très très chaude. Et puis, être du mauvais avis pouvait vraiment vous coûter cher. La même chose est vraie pour l'humanité, d'ailleurs. Est-ce qu'il était vraiment homme, après tout ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que son humanité était vraiment la même que notre humanité ? Franchement. Voilà encore une question de théologie systématique. Pareil, on va chercher dans les évangiles, dans les actes, des réponses à cette question, voir que dit l'Écriture de son humanité cette fois-ci. Ben, si on vivait, je ne sais pas, au 1er siècle, 2e siècle, jusqu'au 3e siècle, c'est une question chaude. Les gnostiques et d'autres, les marcionites, étaient absolument convaincus que ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas être humain. Ben si, il l'est. Mais alors pourquoi ? Voilà une autre question de théologie systématique. Ou encore, et c'est mon dernier exemple, question chaude aussi, alors un peu plus loin, 5e, 6e siècle. Comment vous faites-vous pour comprendre, quand on parle de Jésus-Christ, qu'il est à la fois humain et à la fois divin ? Comment est-ce possible qu'une personne ait deux natures ? Distinctes, qui ne se mélangent pas, mais qui coexistent totalement. Vous avez déjà vu ça quelque part ? Vous pouvez me citer un autre exemple de quelqu'un qui aurait deux natures comme ça ? Je vous écoute. C'est pas très bavard, hein ? Ben, on ne trouverait pas. C'est le grand combat de Nestorius, question qui s'est réglée au concile de Chalcédoine en 451, où les pères conciliaires ont décidé qu'il n'y a qu'une seule personne. En Christ, il n'y a pas un dédoublement de personnalité, comme certains le pensaient. Il n'y a pas une personne divine et une personne humaine qui sont rassemblées. Il y a une seule personne qui a deux natures. Et c'est la résultante des travaux du concile. Voilà encore une question de théologie systématique. Alors, franchement, est-ce que ce genre de questions vous passionne ? Est-ce que vous vous réveillez le matin et dites « Ah, aujourd'hui, on va faire de la théologie systématique, c'est super !» Ouais, là, du coup, vous êtes un peu plus bavard. J'entends beaucoup des noms, pas trop, donc... Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut avouer que cette approche de théologie systématique aujourd'hui n'est pas trop populaire, et en général, on dit « Qu'est-ce qu'on en a à faire après tout hein ?» est-ce que c'est vraiment important ? Oui, moi je trouve que c'est important. Alors pour des raisons que je ne développe pas maintenant, mais si on a une mauvaise compréhension de la divinité de Christ, par exemple, c'est grave. Nous restons dans nos péchés, dit Jésus, rapporté par l'apôtre Jean. Alors à la Réforme, au XVIe siècle, on avance un peu dans le temps, et puis on vient après ça aux notions d'État quand même. C'est juste pour élargir un petit peu votre horizon avant de parler des États. Au XVIe siècle, on a parlé de Jésus un petit peu différemment de ce que je viens de faire. Vous avez peut-être remarqué que les questions que j'ai posées, est-ce que Christ est vraiment Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment homme ? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne ? Est-ce qu'il y a deux personnes ? Ce ne sont que des questions qui ont trait à la nature ou aux natures de Christ. Les premiers siècles de notre histoire chrétienne, on s'intéressait beaucoup à l'essence des choses. Et c'est que ce questionnement est beaucoup conditionné par l'arrière-plan hellénisant, la philosophie platonicienne et post-platonicienne s'intéresse beaucoup à ce genre de questions ontologiques sur l'essence des choses. Les réformateurs, ça ne les passionne pas vraiment. Oh, ils acceptent le résultat des décisions des conciles, mais ils s'intéressent à autre chose. Et là, on va naître, l'accent de la théologie va se déplacer sur les questions de nature, sur des questions de fonction. Les réformateurs vont beaucoup s'intéresser au fait, à la question, qu'est-ce que Christ a fait pour notre salut ? Alors ça, c'est typiquement une question de la réforme. Et un exemple de manière de répondre à cette question, c'est Calvin. Calvin, dans l'Institution chrétienne, au livre 2, chapitre 15, a tout un développement sur les fonctions de Christ. Et Calvin nous dit, eh bien, pour notre salut, Christ est devenu prophète. Il a assumé ce rôle de prophète. Il est prêtre. Alors, ça vous rappelle sans doute l'Épître aux Hébreux. Et puis, il est roi. Il est le Seigneur. Et voilà les fonctions qu'il a assumées en lien, d'une manière ou d'une autre, avec le salut. En fait, il est bien plus que prophète. Il n'est pas seulement porte-parole, il est la parole lui-même. Il est bien plus que prêtre. Il est en même temps le roi prêtre et en même temps, il est la victime, il est le sacrifice. Il est plus qu'un roi dans le sens, un roi humain qui est juste un délégué, un lieutenant de Dieu. Il est le roi, le Seigneur par excellence. Voilà, les catégories explosent avec Christ. Mais l'approche est fonctionnelle. On s'intéresse aux fonctions du Seigneur. C'est toute une autre manière de parler de Jésus. Ce qu'il a fait, beaucoup plus que ce qu'il est. Alors, quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, de quoi vous parlez ? Est-ce que vous parlez de sa personne, de qui il est ? Ou est-ce que vous parlez juste de ce qu'il a fait ? Comment vous faites ? La dernière fois que vous avez parlé de Jésus à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez dit ? Dans quelle catégorie ça rentre ? Vous ne parlez pas de Jésus. Je ne sais pas comment j'ai interprété votre silence. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de note, hein, je ne sanctionne pas. Je suis juste à votre écoute. Franchement, est-ce que vous avez plus de facilité à parler de ce qu'il a fait ? Ou est-ce que vous avez plus de facilité ou de parler de qui il est ? Ou est-ce que vous faites l'équilibre des deux ? Oui, équilibré, ce qu'il a fait ? Il faudrait être équilibré. Hein. Si on veut récolter l'apport de l'histoire de la pensée chrétienne, et les deux se justifient, nous devrions autant parler de qui est le Seigneur. Seigneur au sens le plus fort du terme, il est Dieu lui-même. Et puis ce qu'il a fait, c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie. Il nous parle de Dieu, il nous révèle Dieu, il est prophète. Etc. Ça va jusque-là ? Ouais. Bon, vous le dites. Alors, les états. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est encore différent. Alors, les approches que je viens de citer sont d'autres approches que les états. Alors, c'est pas totalement différent, ça se recoupe en partie, mais c'est quand même un petit peu différent. Alors, quand on parle d'état, de quoi parle-t-on ? Eh bien, on parle de ce que... De façon chronologique, alors ça ressemble un petit peu à la théologie biblique, hein. On parle de façon chronologique de la vie de Jésus à partir de sa naissance, donc son incarnation, jusqu'au moment de sa manifestation en gloire. Donc toute son histoire depuis l'incarnation, voilà ce qu'on prend en compte. Ce qui veut par exemple dire, on ne tient quasiment pas compte de l'Ancien Testament, hein, forcément. C'est implicite. Donc on commence à l'incarnation, la naissance, jusqu'à sa révélation à venir en gloire future. On essaye de voir quelles sont les étapes de tout ce cheminement, et pour chacune des étapes qu'on repère, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle signifie pour son œuvre et pour nous. Quel est le sens de chacune de ces étapes ? Ça va ? Ok. Alors, il se trouve que ces étapes, alors on verra tout à l'heure en quoi, quelles sont ces étapes, mais vous le savez déjà, mais je vais faire comme si vous ne le saviez pas. Il se trouve que ces étapes, on peut les rassembler en deux groupes, et chacun de ces groupes s'appelle un état. Alors, On a par exemple ce genre d'approche dans Jean 16 au verset 28. Alors en plus du texte de Paul de Philippiens que nous avons lu, et je reviendrai sur ce texte tout à l'heure, nous ferons un exercice à partir de ce texte tout à l'heure. Jésus lui-même, quand il parle de lui, de ce qu'il fait, il dit la chose suivante, Jean 16, verset 28. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. » Alors, il y a clairement deux mouvements. Je viens du Père et je vais dans le monde. Je quitte le monde et je vais vers le Père. Le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle l'état d'humiliation. Alors, c'est tout un autre vocabulaire que celui que Paul employait, mais c'est la même réalité théologique. Et le deuxième mouvement, je quitte le monde, je vais vers le Père. C'est l'état, ça correspond à l'état d'exaltation. Alors, Jésus en a parlé à plusieurs reprises. Je vous donne un autre exemple encore, dont la manière dont Jésus en parle. C'est lorsqu'il est en route avec les disciples, qu'on appelle communément les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, disciples qui ne le reconnaissent pas, et Jésus est obligé de leur expliquer tout un tas de choses de l'Ancien Testament, en particulier, qu'ils n'ont pas comprises en rapport avec lui. Et au verset 26, donc Luc 24, verset 26, il dit la chose suivante, parlant de lui-même, il dit « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans la gloire ?» Il y a une phase de souffrance et une phase de gloire. Et les deux se suivent. Un autre exemple encore, cette fois-ci nous retournons chez l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13 au verset 4, et nous reviendrons un peu plus tard sur ce verset. Lorsque Paul parle de Christ, encore une fois, il utilise la même approche qu'il a utilisée pour les Philippiens. Il dit la chose suivante, donc 1 Corinthiens 13, verset 4. « Il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. » Et puis il continue, « Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » 1 Corinthiens 13, verset 14. C'est 2 Corinthiens ? D'accord, effectivement, j'ai une coquille. Merci de la correction. Alors ça, c'est typique. J'ai l'impression que je suis à l'institut où les étudiants corrigent le prof. Ils disent, monsieur, non, la référence n'est pas bonne. Voilà, c'est la bonne référence. Désolé. Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux souligner, c'est les deux mots que Paul emploie. Vous avez repéré au passage. Le premier mot, c'est faiblesse. Ça correspond à l'état d'humiliation. Et l'autre mot, c'est la puissance de Dieu. On voit bien le contraste entre les deux. Autre exemple encore, cette fois-ci chez l'auteur aux Hébreux, et cette fois-ci c'est vous qui allez repérer dans la lecture du texte quels sont les deux termes clés pour les deux états. Hébreux 2, verset 9. « Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Et repérez les deux termes ? Abaissé, couronné. C'est typique, hein ? Ou encore, puisqu'on est dans Hébreu, un deuxième verset, chapitre 12, cette fois-ci, le verset 2, la fin du verset 2. Alors pareil, c'est vous qui me donnez les termes qui caractérisent les deux états, on fait l'exercice ensemble. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous notez ? Premier terme ? Souffert ? Oui ? Assis à la droite du trône de Dieu, l'élévation. Dernier exemple chez Pierre, cette fois-ci. Bon, il y en a même deux chez Pierre. 1 Pierre 1, 11. Alors, je lis juste la fin du verset. Pierre nous parle, parlant de Christ et de son œuvre, « Les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivraient. » Donc là, c'est facile. Hein, c'est le premier état, c'est la souffrance. Le deuxième état, c'est la gloire. Ou encore, un peu plus loin, Plus typique peut-être encore, sa deuxième référence, 1 Pierre 3,18. Pierre, toujours parlant du Seigneur, dit « Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. » Quels sont les termes ici qui font contraste ? Mis à mort selon la chair, et puis rendu vivant par l'esprit. Alors, avez-vous remarqué que dans les références que je vous ai indiquées, il y a plusieurs auteurs différents ? J'ai pris Luc, et c'est le Seigneur lui-même qui s'exprime dans Luc. J'ai commencé par Jean, en fait, après Luc. On a pris deux références chez Paul, deux références aux Hébreux, deux références chez Pierre, ce qui indique que, très certainement, à cause de cette diversité d'auteurs qui citent ce concept, que ce concept d'humiliation et d'exaltation était probablement un concept commun à toute l'équipe apostolique. Ce n'est pas quelque chose que des théologiens ont inventé après coup, ce qui arrive parfois. Les théologiens parfois forment des concepts après coup pour résumer un enseignement biblique. Mais là, s'agissant des deux états qui se suivent chronologiquement, c'est quelque chose qui est déjà très présent dans les auteurs du Nouveau Testament et toute une palette d'auteurs différents. Donc on peut en déduire que probablement c'est un concept commun. Ce n'est pas juste de la théologie de Paul ou de la théologie de Pierre ou de Luc, c'est commun aux apôtres. C'est vraiment quelque chose qui est transversal dans l'entier, on peut-on dire, des écrits du Nouveau Testament. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on a posé bibliquement le fondement de nos deux concepts, donc de deux états qui se suivent et qui sont en contraste l'un avec l'autre, on peut essayer de risquer une définition, ou au moins de formuler quelque chose qui, alors on va voir après si la définition colle ou pas, mais on peut déjà se lancer. On peut essayer de comprendre, mais au fond, à quoi correspondent ces deux états. Et peut-être c'est ça la chose la plus importante de tout le week-end, finalement, parce que c'est un peu la synthèse, c'est un petit peu le résumé. Alors, l'état d'humiliation, d'abord. Comment peut-on le décrire ? Eh bien, on peut en dire deux choses. La première chose, ça consiste dans le fait que Christ s'est rendu solidaire avec les humains. Il devient humain parmi les humains. Il est un humain parmi d'autres. De la même humanité, de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que les humains ont toujours été, hormis le péché. Et ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier aspect de l'humiliation. Il y en a un deuxième qui se rajoute. C'est que dans cette situation d'humain dans laquelle il s'est rendu, il a pris sur lui le péché des humains, de ceux pour qui il allait donner sa vie. Donc c'est une double solidarité. D'abord dans le fait de devenir humain, et puis deuxièmement dans le fait de se charger de la peine que les humains méritent à cause de leur péché. Voilà ce que théologiquement on appelle l'état d'humiliation. Le fait de se rendre humain, solidairement avec les humains, et de se charger du châtiment, de la peine des siens. Et l'exaltation maintenant, en quoi est-ce que ça consiste ? Là aussi, il y a deux aspects. Le premier aspect de l'exaltation du Seigneur, c'est de recueillir le fruit de son œuvre. Il ressuscite. Il est le premier à entrer dans une réalité nouvelle, à inaugurer quelque chose qui n'a pas encore existé. La nouvelle création démarre. Il ressuscite. C'est le premier humain avec un corps nouveau. Ça ne s'est jamais vu. Donc ça, c'est une facette de l'exaltation. Il est personnellement exalté. Et puis il y a une deuxième facette, heureusement pour nous, c'est qu'il entraîne à sa suite dans l'exaltation tous ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés deviennent participants de son œuvre et de son exaltation. Une vie nouvelle commence aussi pour les siens qui sont sauvés. Ça fait partie de l'exaltation du Seigneur. Non seulement lui est personnellement exalté, mais aussi les siens à sa suite. Paul dira par exemple que nous sommes des co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous avons le même héritage que lui. Romains 8, verset 17. Au fond, Christ devait assumer l'humanité avec tout ce que ça implique, c'est l'état d'humiliation, pour nous racheter. Et notre rachat, notre libération du péché participe à son exaltation. Alors, on va revenir sur ça un peu plus posément et un peu plus en détail. Alors, une petite précision ici pour peut-être éviter un malentendu. Parfois, on a compris, et je pense que c'est une erreur, que l'humiliation de Jésus, c'est le fait de devenir homme. Juste ça. Un peu une approche existentielle. En fait, est-ce que vous trouvez que être un humain, c'est humiliant ? Vous vous sentez humilié d'être un être humain ? Franchement ? Ben non ! Mais non ! Il n'y a rien d'humiliant à être un être humain. Les humains sont le couronnement de la création. Le Seigneur nous l'a confié, toute sa création, et nous devons lui rendre compte de notre gestion. Mais être un être humain, c'est un honneur, c'est un privilège d'être humain. Donc, le fait que Jésus soit devenu humain, ce n'est pas être humain qui est humiliant. Ce n'est pas ça. C'est, d'ailleurs, il restera humain dans l'exaltation, de toute manière, hein, donc même jusque dans la résurrection, puisqu'il ressuscite aussi en tant qu'humain. Donc, ce n'est pas être humain qui est humiliant, mais c'est tout ce qui est lié à cette humanité. C'est le fait de prendre sur soi le péché, c'est de renoncer à l'éclat de la gloire qui était la sienne auprès du Père, etc. Mais être un humain en soi n'est rien d'humiliant. Mais ça implique beaucoup pour le Seigneur d'être humain. À la différence pour nous, c'est naturel, nous naissons comme ça, mais pour le Seigneur, c'est encore autre chose. Mais ce n'est pas juste le fait d'être humain. D'accord ? Alors, une autre question maintenant, concernant votre témoignage, et le mien aussi. Quand vous parlez de l'œuvre du Seigneur, est-ce que vous parlez plus souvent de son humiliation, ou est-ce que vous parlez plus souvent de son exaltation? Je peux poser la question autrement, si vous préférez. Si ma manière de poser la question est trop théorique, je peux dire la même chose avec d'autres mots. Est-ce que vous parlez plus souvent, ou est-ce que nous parlons plus souvent du Christ mort et enterré pour nos péchés, ou du Christ vivant, régnant aujourd'hui, qui veut être le Seigneur de notre vie? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce qui dans votre tête vient en premier? De quoi parlez-vous le plus souvent? Quelle est votre christologie en manière d'état? Alors dans mon expérience, mais peut-être elle ne correspond pas à la vôtre, hein, vous me direz si mon expérience est aussi la vôtre, mais dans mon expérience, j'ai l'impression que j'entends souvent les chrétiens parler de la mort du Seigneur, du pardon des péchés, ce qui est tout à fait juste, tout à fait juste. Il faut en parler, pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais je vous avoue que parfois je suis frustré, parce que j'aimerais aussi entendre parler de la Seigneurie de Christ, de son exaltation, du fait qu'aujourd'hui il est sur le trône, maintenant où je vous parle, il règne. Et il veut régner sur ta vie. Il veut régner sur la mienne, il veut régner sur l'Église, il veut régner dans le monde par l'Église. Je ne l'entends pas très souvent. Et vous? Dites-moi. Franchement.
Raphaël,
Ils sont toujours aussi silencieux ou je ne sais pas. Ils ont peur de toi là ou quel est le problème?
Ils ont peur de toi?
Oh, ça m'étonnerait. Non, mais franchement, j'aimerais bien vous exprimer un petit peu, si vous voulez bien. C'est le Christ exalté qui est le plus présent dans votre discours, dans votre compréhension, dans votre sensibilité, ou c'est le Christ humilié? Probablement. En tout cas, comme dit, je ne vous connais pas du tout, donc je n'ai aucune idée, mais c'est ce que je constate souvent. Voilà. Et c'est un petit peu dommage, ça manque d'équilibre. Ça manque d'équilibre. Ce n'est pas du tout l'un contre l'autre, hein, ne me faites surtout pas dire ça, hein. C'est vraiment pas ma pensée. Mais c'est l'un et l'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Et j'aimerais plaider auprès de nous-mêmes, pour moi en premier, hein, de valoriser peut-être un peu plus aussi, non seulement l'humiliation du Seigneur qui nous est précieuse, mais aussi son exaltation, qui pourrait parfois nous donner des ailes si nous étions plus convaincus du règne du Seigneur et de son exaltation aujourd'hui même. Alors, ceci étant dit, il faut maintenant apporter quelques nuances à tout cela. Alors, ce que je viens de faire jusqu'à présent, c'est de brosser le tableau, mais vraiment à très grands traits, avec sans nuances et sans beaucoup de finesse. Alors, j'aimerais maintenant introduire un petit peu de finesse dans ce que je viens de dire. Commençons par l'humiliation. Alors, on va admettre, mais je reviendrai un peu plus tard dans plus en détail, que, en gros, l'humiliation, c'est de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. C'est l'entier de cette phase-là, la phase d'humiliation. Et que son exaltation, c'est la résurrection jusqu'à son retour. Voilà, on va admettre ça pour démarrer. On va voir après si ça se vérifie ou pas. Mais admettons. Alors, si nous prenons cette période de sa naissance jusqu'à la crucifixion, jusqu'à sa mort, est-ce que ce n'est que une humiliation après l'autre, ou est-ce qu'il n'y a pas encore, ou est-ce qu'il n'y a pas même dans cette phase d'humiliation des moments de gloire? Est-ce que c'est une humiliation unilatérale, totale? Non. C'est pas tout à fait comme ça. Hein. Là, on est un peu plus nuancé. Oui, alors quelqu'un dit des miracles, hein, tout à fait. Rappelons-nous la réaction de ben, ces gens, Jean 2, verset 11, à Cana, en Galilée, où Jésus a transformé l'eau en vin. Il y a ce commentaire. « Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Donc même dans la phase d'humiliation, il y a comme ça des éclats de gloire qui transpercent l'humiliation. On se rend bien compte qu'à divers moments, c'est pas quand même un homme comme tous les autres. Hein. Il est quand même extraordinaire dans son humanité. Il fait des choses que ni vous ni moi, nous ne pourrions faire. Il dit des choses que ni vous ni moi, nous pourrions affirmer de nous-mêmes. C'est de la folie, c'est du délire, si ce n'est le Fils de Dieu. Il y a peut-être un moment où tout particulièrement cette gloire apparaît. Je ne sais pas si ça vous vient en tête. Il y a un moment dans les évangiles où... Oui, voilà, la transfiguration, hein, c'est vraiment un moment glorieux où les disciples voient l'aspect de son visage qui change, son vêtement qui devient d'une blancheur éclatante, nous dit-on. Et puis, le commentaire, c'est qu'ils virent la gloire de Jésus. Luc 9, versets 29 et 32, par exemple. Donc oui, même dans l'humiliation, il y a des moments de gloire comme ça qui transparaissent. Et l'inverse. Est-ce que dans l'exaltation du Seigneur, il n'y a pas aussi des moments, le terme n'est peut-être pas le meilleur, d'humiliation? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur n'est plus humilié? Est-ce qu'il n'y a plus rien qui entacherait d'une certaine manière sa gloire aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait humilier aujourd'hui le Seigneur, malgré qu'il règne et qu'il soit à la droite du Père? Pardon, il? Nos actions mauvaises. Oui. Alors malheureusement, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, je le dis avec... Oui. tristesse. Ce qui humilie le Seigneur aujourd'hui, c'est son Église. Rappelez-vous, lorsque le Seigneur rencontre Paul, l'apôtre, le futur apôtre, il n'est pas encore sur le chemin de Tarse, il lui dit quelque chose de curieux. Il interpelle Paul et il lui dit, alors vous connaissez certainement la phrase, « Paul, Paul, plutôt Saul, à ce moment-là encore, pourquoi me persécutes-tu » Est-ce que Paul a persécuté Jésus? Strictement parlé, non. Il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais Paul persécute l'Église. Et Christ s'identifie à son Église. Et la persécution de l'Église, c'est aussi quelque chose de l'honneur de Christ qui est entaché. Parce que sa gloire, et donc celle de son corps, dont il est la tête, n'est pas reconnue, elle est maltraitée. Et c'est un scandale. Peut-être pourrait-on aussi citer ici, alors c'est moins direct, mais bon quand même, 1 Corinthiens 1, les versets 12 et 13, quand Paul est en souci pour les Corinthiens parce qu'ils sont des partis dans leur église, et il les interroge, enfin ou plutôt avant de les interroger, il répète ce qu'ils disent. Chacun de vous affirme, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, et moi Cephas, et moi à Christ, et Paul pose cette question, Christ est-il divisé? Les partis de l'Église ont tendance à faire croire que Christ est divisé, qu'il n'y a pas un seul corps, mais que c'est un corps divisé en plusieurs, je ne sais pas quoi. Et c'est humiliant. 1 Corinthiens, versets 12 et 13. L'auteur aux Hébreux affirme de façon plus globale, « Cependant, dit-il, Hébreux 2, 8, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, effectivement. Christ règne aujourd'hui, mais il tolère par patience qu'on lui soit insoumis. Que et l'Église et le monde fassent des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté première pour les siens et pour le monde. Et c'est humiliant pour un roi d'avoir des sujets qui n'en font qu'à leur tête. C'est humiliant pour un roi d'avoir un royaume qui est dans la persécution. Et malheureusement, nous pouvons participer, nous-mêmes, je peux malheureusement participer à l'humiliation du Seigneur glorifié, exalté, à cause de mon péché, de mon comportement, qui ne rend pas compte de mon appartenance à un corps glorifié, celui du Seigneur. Ce n'est pas encore le cas. Alors, on peut encore aller un pas plus loin. Alors, j'ai posé deux questions. Je vous ai demandé s'il n'y avait pas dans l'humiliation comme des moments de gloire. Si, il y en a, les miracles, par exemple. Dans l'exaltation, il y a des moments d'humiliation. Ben, malheureusement, le corps peut humilier la tête, malheureusement. Mais on peut poser une autre question encore. Est-ce que, finalement, l'humiliation du Seigneur n'est pas une cause de son exaltation? Est-ce que l'humiliation, in fine, ne participe pas à son exaltation? Est-ce que Christ n'est pas aussi glorifié parce qu'il s'est humilié? Est-ce que la plus grande gloire du Seigneur n'est pas aussi le fait qu'il ait les mains percées par obéissance au Père, par amour pour le Père et par amour pour nous? Jésus lui-même induit cette pensée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, les versets 23 et 24. Il est tout proche de la croix. Au chapitre 13 commence le discours de la chambre haute, lavement des pieds d'abord, et après le discours de la chambre haute. Et Jésus dit la chose suivante, parce que voilà, des gens veulent le voir. « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ben, » cette heure qui vient, c'est l'heure de la croix. Et si vous regardez dans l'évangile de Jean, lorsqu'il est question de l'heure, c'est sous-entendu l'heure de la mort, l'heure de la croix. Et Jésus continue, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Les fruits portés sont la gloire du Seigneur. Mais pour qu'il y ait des fruits, il faut que la graine meure. Ça passe par là. Sinon, il n'y a pas de fruits. En d'autres termes, l'humiliation participe à la glorification du Seigneur. La croix est une victoire sur le prince de ce monde qui est jeté dehors, comme il est dit un peu plus loin, chapitre 12, verset 31. Dans sa mort, Jésus manifeste la gloire du Père et manifeste son amour pour le Père. Et c'est probablement aussi ce double langage qu'on voit apparaître dans l'Apocalypse, au chapitre 5, lorsqu'on voit ces deux figures sur le trône. Vous avez sûrement cette image en tête. Il y a à la fois le verset 5 et 6, c'est à la fois le lion de la tribu de Juda qu'on voit sur le trône, le rejeton de David, et en même temps, donc l'image du lion, l'exaltation, et en même temps, l'agneau debout qui semble immolé. Les deux en même temps. L'humiliation et l'exaltation, parce que l'humiliation participe à l'exaltation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsqu'on a lu ensemble ce que Paul dit aux Philippiens, il y a une petite expression qui est entre l'état d'humiliation et d'exaltation. L'humiliation va jusqu'au verset 8, et au verset 9 commence l'exaltation. Et quelle est l'expression qui les relie les deux parties ? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est élevé au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer parce qu'il s'est humilié. C'est la raison. C'est pourquoi il est élevé, parce qu'il s'est humilié. Il y a un lien logique entre les deux états. Il n'y a pas juste une juxtaposition. Les deux sont articulés. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux dit la même chose. Il dit, Hébreux 2, verset 9, j'ai déjà cité cette référence. L'auteur nous le dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi ? La phrase continue, à cause de la mort qu'il a soufferte. Son titre de gloire et son titre d'honneur, c'est sa mort. C'est l'état d'humiliation, dernière étape de l'humiliation, sa mort qui lui vaut la couronne et qui lui vaut la gloire. Est-ce que vous voyez une application de cela pour notre vie ? Vous voulez être le premier ? La première ? Vous voulez être exalté ? Vous voulez être couronné de gloire et d'honneur ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Voilà, vous avez la réponse. Ben, le chemin, c'est l'humiliation, c'est dire bon. Peut-être je dois apprendre un peu plus à servir avant d'être... voilà. Sachant que la gloire que nous attendons est future. Elle n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est celle que le Seigneur nous réserve et que nous aurons dans notre temps. Ça va jusque-là ? Oui ? Vraiment ? Oui. Super, vous êtes super. On a quelques minutes encore. Alors, on va essayer de préciser un petit peu maintenant les étapes qui sont à l'intérieur de l'humiliation et à l'intérieur de l'exaltation. Bien que j'ai déjà répondu à la question, mais je ne l'ai pas fondé bibliquement. J'aimerais maintenant fonder bibliquement ce que j'ai simplement affirmé comme ça tout à l'heure pour être un peu plus simple dans ce que je dis. Alors, on va faire l'exercice ensemble. Je vous propose deux références. Alors, une, ce sera Philippiens 2, mais je voudrais une autre d'abord, avant celle-là. Matthieu 20, verset 28. Alors, je lis cette référence et vous allez essayer. Alors, si vous avez une Bible, c'est bien si vous suivez en même temps que moi. Et essayons simplement, dans la lecture, à repérer quelles pourraient être les trois étapes. Alors, en général, on considère qu'il y en a trois. on peut discuter. Est-ce qu'il y en a vraiment trois? Est-ce qu'il n'y en a pas quatre ou deux, etc. Voilà, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très productive, mais enfin, bon, voilà. Admettons qu'il y en ait trois. Admettons. Lisons Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors, dites-moi, quand vous lisez ça, quelles sont les étapes qui vous apparaissent ?
Venir servir, mourir.
Ben voilà, tout est dit. Il est venu, c'est l'étape de l'incarnation. Il a servi. En général, on considère que c'est son baptême qui inaugure ce temps de service. Donc c'est tout son ministère, pendant les trois années, à peu près les trois années. Puis donner sa vie, bien sûr, c'est sa mort. Mais vous remarquez que il y a un élément supplémentaire, la phrase se termine avec une explication théologique. Alors cette humiliation sert à quoi ? La réponse est dans le texte. Oui. Pour donner sa vie donc en rançon, pour racheter littéralement les nombreux. Donc c'est probablement une allusion à Isaïe 53. Le but de tout cela n'est pas juste de sauter des haies, mais il y a quelque chose au bout. Et le bout, c'est le salut. Toute cette étape d'humiliation sert à rendre le salut possible. C'est pour ça, c'est à ça que ça sert. Alors maintenant, venons à Philippiens. Revenons à notre texte de départ, Philippiens 2, les versets 7 et 8. On va relire les versets 7 et 8, et puis on va refaire le même exercice ensemble. On va essayer de trouver comment Paul, avec un vocabulaire différent maintenant, mais là c'est la même réalité me semble-t-il, parle de ces étapes. Alors, Philippiens 2, versets 7 et 8, on revient au début. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, est-ce que vous trouvez quelque part la première étape ? Oui, alors c'est le dépouillement, mais il faut rajouter un petit peu quelque chose ? Le dépouillement, alors pas de la divinité, mais des conditions de la divinité, hein ? Oui ? Donc c'est le fait de devenir humain, devenant semblable aux êtres humains, donc c'est un dépouillement. Il a renoncé aux avantages de la divinité, aux certains avantages de la divinité, pour devenir humain. L'étape 1, l'incarnation. La deuxième étape, le temps de ministère, de service, vous le trouvez dans le texte ? Oui, condition de serviteur. L'obéissance, effectivement, c'était un temps d'obéissance aussi. Et puis la dernière étape de l'humiliation, sa mort, ben, c'est pas compliqué. C'est dans le texte en clair, hein, c'est la mort sur la croix. Donc là aussi, Paul semble bien aussi valider cette idée que, ben oui, lorsqu'on considère la vie du Seigneur, de sa mort, son incarnation, sa naissance, jusqu'à sa mort, ben on peut considérer en gros, il y a trois moments importants. Le moment de devenir homme, le service en tant que tel, et puis la finale, terrible, sa mort sur la croix. Et c'est l'entier de ces étapes qui forme l'humiliation. Alors ce soir, c'est ce que nous allons examiner ce soir. Je reviendrai sur ces étapes et on les prendra les unes après les autres un peu plus à détail. L'exaltation maintenant. Là aussi, on peut distinguer trois étapes. En général, on distingue la résurrection, qui est le début de l'entrée dans la gloire. Le fait de monter vers le Père, donc l'ascension ou la cession à la droite de Dieu. Et puis finalement, l'étape qui est encore devant nous, de la manifestation en gloire ou de son retour, pour employer un vocabulaire qu'on emploie parfois. Alors là, pareil, je vous donne deux exemples. L'un, on reprendra de nouveau Philippiens 2. Mais avant Philippiens 2, on va en prendre un autre, qui est un passage, alors pas parallèle, mais un peu parallèle quand même, dans la lettre aux Colossiens, les versets 1 à 4. Et on va lire ensemble, et puis pareil, vous repérez cette fois-ci les trois étapes de l'exaltation, si vous les trouvez dans le texte. Alors, ça ne me paraît pas très difficile dans Colossiens, c'est un peu plus compliqué dans Philippiens, mais dans Colossiens, ça semble bien aller. Dans Colossiens 3, versets 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Vous avez repéré les étapes ? Là, c'est pas compliqué. La résurrection ? Oui ? C'est le début, hein, le verset 3. Il est question de la résurrection de Christ à laquelle nous sommes associés. L'ascension, le fait d'être à la droite du Père. À la fin du verset 1, c'est dans le texte, c'est pas compliqué. La manifestation en gloire. Verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, etc. Alors ce texte a une particularité qui est intéressante. C'est qu'il nous associe à ces étapes. Au fond, ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est que non seulement Christ est ressuscité, mais nous aussi avec lui. Non seulement Christ est à la droite de Dieu, mais nous aussi devons nous porter vers ce qui est en haut. Et puis, pareil pour la manifestation en gloire, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Nous sommes associés au Seigneur. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors venons à Philippiens. Revenons à Philippiens maintenant pour un deuxième exemple de la même réalité. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Donc on les a déjà lus, mais je les relis. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, mais vous allez trouver. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors dites-moi voir, quels sont les éléments que vous retrouvez, les étapes que vous retrouvez dans ces trois versets. Bah, c'est un peu plus compliqué là, hein? Alors, je vais commencer par le plus simple. Qu'est-ce qui nous parle de l'ascension? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait pointer vers l'ascension? Oui, bien sûr, c'est le plus simple, hein? Dieu l'a élevé à la plus haute place, il lui a donné, etc. Donc là, ça fait penser assez naturellement à le fait que le Seigneur monte au ciel. Voilà, acte 1. Le fait qu'il règne, ou qu'il... Oui, alors, peut-être je ne vais pas dire plus, sinon je vends la mèche. J'ai failli vous donner la réponse. Qu'est-ce qui pourrait parler de son retour ? Oui, exactement. C'est le fait que tout le monde va plier le genou devant lui, universellement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. C'est lors de son retour en gloire que chacun va devoir reconnaître la réalité de ce qui aujourd'hui est contesté, nié, bafoué, le fait que Christ règne. Alors peut-être maintenant le plus difficile, qu'est-ce qui dans ces versets nous parle de sa résurrection ? Alors on a le retour, on a le fait qu'il soit monté au ciel, mais et la résurrection, où est-elle dans ces trois versets ? Qu'est-ce qui évoque la résurrection ? Alors j'avoue que c'est plus compliqué là. Donnez votre langue au chat. Alors, historiquement, alors probablement vous ne le savez pas, sinon vous aurez donné la réponse. Historiquement, la première confession de foi des chrétiens, la confession de foi la plus simple et la plus radicale qu'on connaisse, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Et on trouve ça dans Actes 2, verset 36, où c'est l'apôtre Pierre qui parle après la Pentecôte. Il dit « Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Et si vous regardez un petit peu le contexte, vous vous rendrez compte que cette seigneurie de Christ est liée à sa résurrection. C'est sa résurrection qui prouve, qui établit, il est vraiment le Seigneur. Le Christ ressuscité est le Seigneur. Et les témoins, que sont les apôtres, l'attestent. Il est Seigneur. Et quand les premiers chrétiens disaient « Il est Seigneur », ce n'était pas juste un titre, il sous-entendait par là, il est le Christ ressuscité, le Messie ressuscité. C'est ça le Seigneur. Et en ce sens-là, il règne. Ce n'est pas un César parmi d'autres, ce n'est pas un Seigneur parmi d'autres. C'est le Christ ressuscité qui est Seigneur. D'accord ? Et si maintenant nous reportons un petit peu en arrière sur le texte de Philippiens, que voyons-nous ? La fin du verset 11. « Que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. » Et c'est cette seigneurie qui est généralement associée à la résurrection. Le Christ ressuscité est Seigneur. Ou à l'envers, le Seigneur, c'est le Christ ressuscité. Alors pour nous, on ne fait pas cette association-là, vous ne l'avez pas faite, hein, je vous ai posé la question, spontanément vous n'y avez pas pensé, c'est simplement parce que nous sommes des chrétiens du 21e siècle et non pas du 1er siècle, nos associations sont différentes, mais pour les chrétiens du 1er siècle, l'association se faisait très naturellement entre la seigneurie et la résurrection. Le Christ ressuscité, c'est le Seigneur, et le Seigneur, c'est le Christ ressuscité que nous servons, et non pas, comme dit, un César quelconque, ce qui allait poser des problèmes aux chrétiens après, mais ça c'est toute une autre histoire. Ça va ? Donc Paul aussi, à sa manière, avec son vocabulaire, reconnaît non seulement les deux états d'exaltation, d'humiliation d'abord et d'exaltation, mais même si on regarde un petit peu plus près, effectivement on peut trouver trois éléments dans le premier état et trois autres éléments dans le deuxième. Donc les théologiens n'ont pas tout à fait tort. C'est biblique. La synthèse théologique pourrait être correcte, a priori. Alors, quelle heure est-il ? Oui, il est l'heure de vous laisser parler. Alors, alors là, c'est là que je suis coincé, selon mon habitude. Bon, quand même. Le credo, ça vous dit quelque chose ? Oui ? Vous pourriez réciter le credo ? Non. Est-ce que vous pourriez réciter le Notre Père ? Oui. Ok. D'accord. Le credo est une confession de foi qui date du 4e siècle. Probablement en lien avec le concile de Nicée, c'est pas tout à fait si clair que ça, mais c'est assez vraisemblable. C'est quelque chose que les premiers chrétiens récitaient pour confesser leur foi. Alors je vais vous lire le credo, c'est très court, c'est quelques phrases. Alors credo veut dire « je crois », c'est du latin, veut dire « je crois ». Donc les chrétiens disaient ce qu'ils croyaient. Et essayez voir de repérer dans ce credo, ou regardez quels sont les rapports entre ce credo et entre ce que nous venons de dire. Hein. Voilà. Alors que croyaient les chrétiens du 4e siècle ? Ils croyaient par exemple ceci, alors je cite. « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. » Voilà, c'est comme ça que les chrétiens du 4e siècle confessaient leur foi. Alors, est-ce que vous avez des rapports entre ce que je viens de lire et ce que nous venons de dire avant? Il y a des choses qui ont fait tilt? Peut-être c'est un peu rapide, hein, mais... Il y a quand même des choses qu'il cite, dont nous avons parlé? Alors, est-ce qu'il cite l'incarnation? Oui, clairement, hein. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Non, ça, ils ont intégré. Est-ce qu'il cite le service? Le ministère du Seigneur entre... on va dire, entre son baptême et sa mort? Non. Ils disent rien. Ah, c'est un élément qu'ils ont passé sous silence. Est-ce qu'ils parlent de sa mort? Oui, clairement. Hein. Souffert sous Ponce Pilate, crucifié, mort, enseveli. Est-ce qu'ils parlent de sa résurrection? Troisième jour et ressuscité des morts. Est-ce qu'ils parlent de son ascension? Oui. Et monté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Est-ce qu'ils parlent de sa venue en gloire? Oui. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Alors, il y a une étape dont il ne parle pas, c'est le ministère terrestre, avant la mort. Mais il parle de quelque chose dont moi je ne vous ai pas parlé par contre. Oui, je l'ai entendu murmurer. Il faut juste le dire à haute voix. De quoi parle le credo et dont nous n'avons pas parlé, dont moi je n'ai pas parlé? Eh oui, il est descendu aux enfers. Ha! Et voilà un problème. Il est descendu aux enfers. Le credo dit qu'il y a une étape supplémentaire, donc il en manque une, c'est le service, mais il en rajoute une, c'est qu'il est descendu aux enfers. Alors, les spécialistes discutent beaucoup de ce que ça veut dire en réalité. Qu'est-ce que les pères apostoliques qui ont écrit ça avaient dans la tête quand ils ont écrit ça, hein. On a un petit peu du mal à savoir. Mais parfois, en effet, certains rajoutent une autre étape, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais par souci d'honnêteté, il faut quand même que je le signale. C'est la descente aux enfers. Le credo en parle. Alors, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, très rapidement, là, vu l'heure, je dois condenser. Il y a trois éléments qu'on a avancés. Alors, un premier élément, Jésus serait descendu aux enfers. Alors, c'est une hypothèse, hein, c'est pas moi qui le dis, je résume ce que certains ont compris. Jésus est descendu aux enfers parce que pour proclamer sa victoire aux démons. C'est pour dire aux démons, j'ai gagné, vous avez perdu. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est pour évangéliser les morts, donc ceux qui n'avaient pas entendu l'évangile durant leur vie, jusque-là, c'est pour leur annoncer l'évangile, pour qu'ils aient une deuxième chance. Troisième hypothèse, alors ça c'est plus complexe, il serait allé, alors non pas directement en enfer, c'est plus fin que ça, mais il serait allé dans les limbes. Savez-vous ce que c'est les limbes? Alors si vous ne savez pas ce que c'est les limbes, c'est que probablement vous n'étiez pas catholique, sinon probablement vous le sauriez, ou alors vous avez séché le catéchisme au moment où le prêtre ou la dame catéchiste vous a parlé des limbes. Bon, il est probable même qu'elle ne vous en ait pas parlé parce que l'Église catholique a abandonné cette thèse. Donc, en fait, les limbes, qu'est-ce que c'est? Dans la doctrine catholique, c'est l'endroit où sont les enfants qui sont morts non baptisés. Donc, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas sauvés, ils sont quelque part dans l'entre-deux. Et c'est aussi l'endroit où sont les croyants de l'Ancien Testament. On appelle ça les limbes. Donc, ce n'est pas le purgatoire, ce n'est pas l'enfer, c'est encore autre chose. Et donc, au fond, Jésus serait allé, alors non pas aux enfers, mais dans ces limbes, pour libérer les personnes qui seraient prisonnières à cet endroit, les limbes. Donc voilà, ça c'est une des trois raisons, bon, pas les trois en même temps, mais l'une ou l'autre de ces trois raisons a été invoquée pour expliquer pourquoi Jésus serait descendu aux enfers, selon le credo. Alors, que faut-il en penser? En fait, si on y regarde un peu plus près et si on cherche les éléments bibliques pour justifier cette thèse, on est franchement en mal d'en trouver. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Alors l'Écriture ne dit nulle part qu'il y a une deuxième chance. L'Écriture ne dit pas, ben, si vous ne vous êtes pas converti durant votre vie terrestre, vous pourrez encore plus tard, une fois mort, vous pouvez encore vous convertir. Alors ça n'existe pas. Donc cette hypothèse, il faut clairement l'abandonner. Les limbes, ça n'existe pas, il n'y a aucun appui biblique réel pour cette thèse-là. C'est né vraiment dans le contexte du catholicisme au Moyen-Âgeux, donc ça n'a pas d'appui biblique. Il resterait la toute première hypothèse, éventuellement, la proclamation de la victoire aux démons. Alors, certains s'appuient sur deux pierres. Non, j'ai dit une erreur, sur un Pierre. 1 Pierre 3, versets 19 et 20, où Pierre dit, parlant de Jésus, « Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. » Donc, prêcher, littéralement, c'est le verbe kérusso, donc c'est proclamer aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Bon, franchement, c'est une hypothèse difficilement défendable. On peut presser le texte, éventuellement, pourquoi pas, mais c'est quand même une hypothèse difficilement défendable. Donc, en conclusion, il vaut mieux laisser tomber cette étape de la descente aux enfers. Il me semble que l'Écriture n'en parle pas. Et si l'Écriture n'en parle pas, nous n'avons pas de raison nous-mêmes d'en parler plus que cela. Donc, on va s'arrêter là et on va rester dans une sobriété plus classique. Un mot de conclusion, et je vous laisse la parole pour des questions, si vous en avez. Conclusion sera double ici. La première, c'est que ce qui est assez extraordinaire, et je reviens maintenant à Philippiens 2, encore une fois, mais pour le début du texte, le verset 5, Paul dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Le mot grec qui est traduit par attitude est un mot un peu difficile à traduire. Certains traduisent par sentiment. L'ancienne seconde traduisait que voilà qu'on doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. D'autres traduisent par pensée, c'est le mot phronéo en grec, le verbe phronéo qui est là. Ici, on traduit par attitude. Probablement, attitude est la meilleure traduction. État d'esprit serait peut-être encore mieux. Ayez l'état d'esprit qui est celui de Jésus-Christ. Et Paul continue en disant, l'état d'esprit de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'humiliation, l'humilité avant la gloire. Au fond, Christ nous associe à lui. Nous sommes en lui, avec lui. Alors nous avons lu, je fais référence ici à Colossiens 3, versets 1 à 4. Et cette humiliation qui est la sienne, et cette exaltation qui est la sienne aujourd'hui devrait aussi être la nôtre en son temps. Probablement, nous sommes aujourd'hui plus proches du temps d'humiliation. Notre exaltation n'est pas encore arrivée. Elle sera pleinement avec lui lorsqu'il viendra en gloire. Mais déjà, nous sommes associés à lui. Et notre vie spirituelle se déroule en communion avec un Christ régnant, un Christ ressuscité. Et nous ne devrions pas l'oublier. Et nous pouvons nous interroger quel rapport il y a entre ces étapes pour Christ et pour nous-mêmes, notre propre vie. On continuera à nous interroger ce soir et demain à ce propos. Et puis, deuxième et dernier élément, j'ai été interpellé, il y a quelques années, par un livre de John Stott. C'est « Le chrétien à l'aube du 21e siècle », c'est le volume 2, et ce volume 2 traite de l'Église et du monde. Et John Stott défend ici une thèse qui me parle, et peut-être vous parlera aussi. Il dit au fond, la mission chrétienne, notre mission dans ce monde, devrait être à l'image de celle de Jésus-Christ. Dans Jean 20, verset 21, Christ dit aux disciples, après sa résurrection, « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Donc, notre mission dans le monde est en lien avec la mission de Christ. Et les étapes qui sont les siennes devraient aussi devenir celles de la mission chrétienne. Et John Stott dit la chose suivante. Quand on parle de l'incarnation de Christ, ça devrait être un modèle d'identification. Quand on parle de service, du service de Jésus-Christ, ça devrait être notre attitude. Lorsqu'on parle de la croix, ça nous parle du prix de la mission. Lorsqu'on parle de la résurrection, c'est en lien avec le mandat, parce que c'est un Christ ressuscité qui nous envoie. Je reviendrai sur ça ce soir et demain. Et lorsqu'on parle de l'ascension, c'est La puissance de Christ ressuscité est à notre disposition pour notre mission. Et lorsqu'on parle de la venue du Christ en gloire, cela nous rappelle utilement que notre vie sur terre n'a qu'un temps et que la mission est urgente avant que le temps soit dépassé et que Christ soit là, en puissance et en gloire. Voilà, rapidement, à grands traits, mais je reviendrai ce soir et demain plus en détail sur chacun de ces points-là. Voilà jusque-là. J'espère n'avoir pas été trop rapide et trop condensé, mais vous avez la parole. Non, vous n'avez plus la parole. Waouh, Raphaël, je suis désolé, je plaide coupable. Je me suis laissé emporter par mon élan et j'ai dépassé le temps imparti.
Je pense qu'il y a quelques questions. On peut prendre 5 minutes. À 19h, il faut qu'on soit à table pour respecter le service. Là, il est moins le quart pile.
Désolé pour vous. Hein,
Non, mais on peut prendre 5 minutes pour...
Désolé, oui.
Est-ce que c'est ce déséquilibre qui expliquerait le courant des 14e, 15e et 16e siècles, l'Église catholique universelle n'a pas été scindée en deux, donnant naissance au protestantisme avec les fameuses guerres de religion 415 par Lyon. Et est-ce que, dans quelques siècles après, est-ce que c'est pas ce déséquilibre qui a fait qu'on a parlé de calvinisme ou de calvinisme?
Oui. Je ne sais pas si je peux répondre. En fait, je me pose la question. Il se pourrait que ça ait joué. Parce qu'en effet, par exemple, le Moyen-Âge était relativement sombre quand même. Alors pas que, c'est une exagération, il ne faut pas penser tout noir. C'était pas tout noir, mais quand même. Et c'est évident que l'époque de la Réforme, ou qui précède la Réforme, était beaucoup plus portée sur l'humiliation que sur l'exaltation. C'était quand même un climat qui était pesant, qui était lourd, qui était culpabilisant, qui était écrasant d'une certaine manière. Et ce déséquilibre pourrait peut-être, alors je ne suis pas suffisamment historien pour le dire avec certitude, mais c'est une probabilité que je peux concevoir, il se peut que ce déséquilibre de la théologie du Moyen-Âge, cette accentuation sur l'humiliation, ait peut-être en réaction contribué à susciter le désir d'autre chose et de ne pas rester dans ce trou noir et de sortir de ce trou. Donc les réformateurs ont effectivement... On saisit cette perche, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, c'est pour la première partie de la question. Maintenant, pour la deuxième partie, entre les divisions dans le protestantisme, là, franchement, là, je ne pourrais pas répondre, par contre. A priori, je ne vois pas trop sur quoi je pourrais m'appuyer pour fonder ma réponse. Donc pour la deuxième partie, je préfère m'abstenir. Pour la première partie, je répondrais plutôt oui. Pour la deuxième partie, je dirais plutôt je ne sais pas vraiment. J'hésite à répondre pour la deuxième partie.
Je m'excuse, mais on va laisser la place à d'autres questions, vu qu'on a peu de temps. Tu pourras continuer avec Roland, d'accord? Ok. Oui, Rémi.
J'ai une question sur le credo de la descente de Jésus aux enfers.
Oui.
J'ai entendu dans pas mal des circonstances qu'au moment où Jésus portait le péché sur la croix,
oui.
Il avait été séparé de Dieu.
Oui.
Qu'il avait, de cette manière-là, connu l'enfer.
Oui. Oui, alors effectivement, c'est vrai. Alors ça s'entend de temps en temps, on entend ça, ou ça se lit même dans des ouvrages. Alors je serai un peu prudent avec ça, je l'aborderai ce soir. C'est vrai que certains ont considéré effectivement que l'enfer, c'est ce que Christ a vécu sur la croix. Donc ce n'est pas une étape supplémentaire, mais c'est la croix en tant que telle qui est au fond l'enfer, à cause de ce que vous dites, la séparation avec le Père. Bon, personnellement, j'hésite un peu et je vous expliquerai ce soir pourquoi, parce que j'ai prévu de l'aborder ce soir, donc je reviendrai sur cela. Si jamais je ne reviens pas dessus, vous reposez la question, je reprends volontiers. Oui, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend parfois, qu'on lit, oui, tout à fait exact. Oui.
Nicolas, levez la main, et il y avait aussi après Michel et Joe, dans cet ordre-là.
Ouais, j'avais une question, vous avez parlé du baptême de Christ.
Oui.
Ma question, c'est dans les deux états d'humiliation et exaltation.
Oui.
Oui. Aujourd'hui, nous, on s'associe un peu au Christ, à son œuvre,
oui.
Et on se soumet à sa volonté. Christ, quand il s'est baptisé, il a été baptisé par Jean-Baptiste.
Oui.
Il symbolisait un peu un changement de vie. Mais Jésus n'avait pas besoin de changer de
oui.
vie. Alors,
Oui, alors je vais répondre très brièvement. On pourra longtemps débattre ça, parce que ça a été beaucoup débattu, hein, donc il y a toutes sortes de réponses à cette question. Je vous donne un avis. Comme pour nous, alors il y a des choses qui ressemblent, des choses qui sont différentes. Ce qui ressemble à notre baptême, c'est l'acte d'obéissance, ce qui est juste. Donc c'est une obéissance au Père, c'est le fait que Jésus accepte d'entrer dans son ministère et la voix du ciel le reconnaît dans ce sens-là. Parce que c'est probablement en lien aussi avec Ésaïe 42, c'est une réminiscence d'Ésaïe 42 dans, aussi pour la voix du ciel avec une petite différence, etc. Donc ça c'est un élément. L'autre élément qui est totalement différent que nous, et c'est la question, il me semble, portée un petit peu sur la différence plutôt que sur la ressemblance. Alors parfois on dit la chose suivante, et je vais utiliser la formule par souci de rapidité dans la réponse. Alors à la différence de tous les autres qui ont laissé leur péché dans le Jourdain, Jésus les a pris sur lui et est sorti avec. Ok ? Donc symboliquement, bien sûr, symboliquement. Hein. Donc tous ceux qui se faisaient baptiser reconnaissaient leur besoin de purification et symboliquement ont laissé leur ancienne vie derrière eux dans le Jourdain, en sont ressortis purifiés pour une nouvelle vie, la repentance. Pour Jésus, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est un effet miroir entre son baptême et le nôtre. Il entre dans le Jourdain, prend sur lui, en entrant dans l'eau, toute la saleté qui s'y trouve, en ressort avec et le porte jusqu'à la croix. Symboliquement toujours. Hein. Voilà. Au fond, c'est une identification à nous, aux humains, mais en miroir. Voilà. Ceci très rapidement. Alors, tout n'est pas dit avec ça, mais bon, voilà.
Michel, ensuite Joe.
Donc, vous avez dit, c'est vrai, c'est en général, que Christ est la première personne qui est ressuscitée.
Oui.
Et puis, dans Matthieu 27, verset 51, il dit que dans le voie de Christ est mort, le voie
de s'est
déchiré.
Oui.
Oui,
tout à fait. Oui, oui. Alors, très, très bonne question. Alors, en principe, on en parlera demain matin, puisque je pense évoquer la résurrection. Mais ce n'est pas grave, je peux répondre tout de suite, parce qu'il y a tellement de matière pour la résurrection que je risque d'oublier, donc ça ne me dérange pas de le dire tout de suite. En fait, lorsque nous disons que Christ est ressuscité et que d'autres sont ressuscités, cet exemple, ou Lazare, ou plein d'autres encore, hein, il y a eu plusieurs résurrections dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en fait, c'est un abus de langage. C'est-à-dire, on parle de résurrection dans les deux cas, mais ce n'est pas la même réalité. Pour tous ceux qui sont ressuscités, sauf Christ, ils sont tous remorts. Aucun de ceux qui est ressuscité n'a eu un nouveau corps glorifié. Seul Christ a eu un corps nouveau, glorifié. Tous les autres, c'était autre chose. En fait, c'est un retour à la vie terrestre pour les autres, ressuscités, et pour Christ, c'est une entrée dans une vie céleste future, pour nous futurs, pour lui actuel. Donc, la résurrection de Christ et les autres résurrections, bien qu'on emploie le même mot pour désigner le fait, sont en réalité de nature différente. Donc, ce sont deux phénomènes qui se ressemblent un peu, dans le sens qu'il y a retour de la mort, mais qui sont totalement différents par leur nature. Le corps des uns et des autres n'est pas le même. Lazare est remort. Il n'est plus là parmi nous. Je ne sais pas où il est, mais il est mort. Alors que Christ est vivant parmi nous, ressuscité. On n'est pas dans le même registre.
Jo.
Concernant la descente aux enfers.
Oui. Oui. Je suis très réservé sur cette option parce que, alors vous ne l'avez pas dit, mais souvent on rajoute derrière, c'est la rançon payée au diable. C'est parfois comme ça que la phrase continue, hein, mais vous ne l'avez pas dit. C'est moi qui complète comme ça. Alors je pense que cette idée de rançon payée au diable, alors elle est franchement absolument pas biblique. Dieu se paye la rançon à lui-même. C'est sa propre justice qu'il satisfait et non pas celle du diable. Le diable a le rôle d'accusateur. Il n'est pas le juge, il n'est pas celui qui décide ou à qui il faut rendre justice. C'est Dieu à qui on rend justice, hein, donc pas le diable. Alors ça pour commencer. Et maintenant, oui, mais il est payé à Dieu, il n'est pas payé au diable. Hein, donc vous ne l'avez pas dit, je sais que vous ne l'avez pas dit, donc c'est juste moi qui complète. Alors le prix payé, il me semble que le prix payé, en règle générale, ce n'est pas l'enfer, c'est le sang, c'est la mort. Donc c'est la mort qui paye le prix en tant que tel, en tant que mort, et non pas quelque chose qui suivrait la mort. Donc moi, je suis assez sceptique sur cette idée que le prix serait l'enfer. Je ne trouve pas d'appui biblique pour ça, vraiment. Alors que l'appui biblique, pour dire, c'est le sang, c'est la mort qui est le prix payé. Alors là, on trouve la notion de rachat est liée très souvent, chez Pierre par exemple, ou d'autres, au sang, à la mort en tant que telle, et non pas à l'enfer. Alors c'est aussi une des thèses qui a été défendue. Alors au fait, on est embêté en réalité parce que ça se trouve dans le credo. La phrase ne serait pas dans le credo, probablement on ne se poserait pas la question. Mais comme est dans le credo, on est obligé de se poser la question, mais qu'est-ce que les chrétiens du IVe siècle pensaient? Comment ils justifiaient la chose? Et on a un petit peu de mal à le savoir.
Dans la suite, on a l'impression que c'est 3 jours après la mort.
Oui.
C'est comme s'il y avait besoin d'un certain temps pour que ça marche. Enfin, c'est
oui.
Un combat qui dure.
Oui.
Mais finalement, ça s'arrête à la mort. Enfin, je veux dire, à la mort sur la croix, c'est fini.
Oui.
Il n'y a pas 3 jours de bagarre, je ne sais pas quoi.
Mais... Oui. Personne ne dit, je n'ai pas dit qu'il y avait une bagarre. Hein.
Oui, c'est ça. Que c'est 3 jours où, oui. Où Christ va aller gagner sa victoire.
Oui.
Il va lui falloir du temps.
Bon, là aussi, il me semble que ce n'est pas tout à fait exact. En fait, où était Christ pendant ces 3 jours? Peut-être c'est comme ça qu'il faut d'abord poser la question. Au séjour des morts. Je pense je suis pas assez serein là-dessus. Relisez Acte 2, le discours de Pierre à Pentecôte. Pierre cite le psaume 16. Un psaume de David où David parle du fait qu'il ne laissera pas son bien-aimé la corruption, de se corrompre. Donc on peut assez facilement déduire, et puis d'autres références aussi, que ce temps, ces 3 jours, trois nuits, 3 jours pour employer l'expression, c'est une expression un peu typée, sont un temps dans le séjour des morts. En d'autres termes, Jésus est vraiment mort. La preuve, c'est son corps est au tombeau, est enterré, et son intériorité, son âme, son esprit est au séjour des morts. Donc c'est une vraie mort. Probablement l'idée est plutôt d'attester une vraie mort en lien avec, bien sûr, la Pâque, hein, puisque c'est dans ce contexte-là que ça se passe. On dira un mot ce soir. Et puis la résurrection, c'est le premier jour de la semaine, donc le troisième jour, c'est un jour nouveau, c'est le 8e jour. C'est 7 plus 1, le 8e jour. Une nouvelle création commence le 8e jour. Et il y a probablement dans toute cette séquence aussi, pas seulement une question de durée, de temps qui passe, mais aussi une question symbolique, de nouveau départ. Et il fallait que la semaine se termine, qu'une nouvelle semaine commence. Mais en fait, cette nouvelle semaine qui commence sera une nouveauté totale. Ça sera réellement le jour du Seigneur. Et ce n'est pas juste un sabbat qui est un peu spécial. C'est vraiment, on est hors catégorie. On sort du cycle des 7 jours et on commence un nouveau cycle, le 8e jour. Donc, en fait, le premier du nouveau septenaire. Donc, probablement, c'est plus en rapport avec ça. Mais il est vrai que nulle part, on nous explique exactement pourquoi, justement, ces 3 jours. Alors ça, c'est moi qui essaie de comprendre, mais l'explication n'est pas dans toute lettre dans le texte biblique.
Merci, Roland. Tu vois, ils ont des questions, quand même.
Ah, j'en doute pas. Je me demandais si le courage serait... Voilà, le courage de les poser, mais il n'y a pas de souci. Hein.
Si vous avez encore des questions et vous voulez le passer à la broche... vous allez le voir et vous lui dites: Roland, je voudrais manger avec toi. Et comme ça, pendant tout le repas, il ne se repose pas. Voilà, merci,
merci
Roland.
Votre attention.
Rendez-vous ici ce soir. D'accord. 20h15. Attends, s'il vous plaît, 2 secondes. 20h15. Ici, on commence pile à 20h15. Vous manquerez le début à 20h16. D'accord, donc bon repas et je vous invite à aller tout de suite au réfectoire pour prendre place. Merci.
Oui. Oui.